BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bienvenue dans cet épisode d'Happy Boulot, le mag. Épisode dans lequel on va questionner notre rapport au travail. D'abord avec un réalisateur de documentaire, Samuel Durand. On va se poser la question, pourquoi rejoint-on une entreprise plutôt qu'une autre? Ensuite, on parlera du marché des cadres, qui est complètement paradoxal. Il ne connaît pas la crise, il tutoie le plein emploi, et pourtant, les cadres démissionnent. Comment résoudre cette équation? Eh bien, c'est deux personnes qui viendront nous éclairer. Xavier Dulin, avocat au cabinet Barthélémy, et puis Coralie Rachet, qui est la directrice générale de Robert Walters. Et puis pour finir cette émission, on parlera de freelancing et de senior. Comment finir sa carrière en beauté avec du freelancing sans vraiment avoir besoin de la sécurité de l'entreprise? C'est Thomas Ducré, le responsable commercial de Hibou, qui viendra répondre à nos questions.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre? Quels sont les leviers de motivation pour aller rejoindre telle entreprise ou telle autre? Pour répondre à cette question, c'est un réalisateur, un auteur de documentaire avec nous pour démarrer Happy Boulot. Bonjour Samuel Durand.
Bonjour Lorraine.
Samuel, vous êtes auteur de plusieurs petits ouvrages visuels, on va dire ça comme ça, une série intitulée Work in Progress. Vous sortez un documentaire qui s'appelle « Pourquoi rejoignons-nous une entreprise, une boîte plutôt qu'une autre ?» en 2022. Quels sont les leviers de motivation que vous avez identifiés en tant qu'observateur privilégié du monde du travail?
On a identifié trois principaux en se disant que d'abord, le plus important, c'était l'environnement de travail. On rejoint une entreprise souvent pour une personne qui nous a marqué lors des entretiens, peut-être. Donc, c'est le lien social, c'est la flexibilité. C'est aussi peut-être les avantages inhérents à l'entreprise. Ensuite, il y a la tâche en elle-même et la façon dont elle est réalisée. Et là, on va creuser ces sujets d'autonomie, de créativité, de responsabilité, toutes ces valeurs de l'artisanat, en fait. Et puis, on rejoint une entreprise pour une mission, évidemment, pour un projet collectif, un projet commun. Donc, c'est les trois grands leviers de motivation qui, en dehors du salaire, qui reste quand même le principal critère d'attractivité, font qu'on rejoint une entreprise plutôt qu'une autre, qu'on se lève pour une boîte chaque matin.
Alors, on va parler un peu plus précisément de votre documentaire qui est actuellement consultable. Vous allez nous dire où. Qui sont les experts que vous avez sondés pour arriver à ces conclusions qui sont presque celles d'un cabinet de conseil ou d'un cabinet d'expertise RH?
Alors oui, en fait, pour comprendre pourquoi on va voir dans ces documentaires-là, en fait, il faut comprendre comment j'ai démarré et j'ai commencé, moi, à m'intéresser à ce sujet de transformation du travail en réalisant une étude, en faisant une centaine de rencontres dans, je crois que c'était une quinzaine de villes du monde pendant 6 mois. Et donc, on est allé sur le terrain pour voir des bonnes pratiques. Et tout le parti pris des documentaires, c'est de se dire, il y a déjà des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui dans un tas d'entreprises. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il faut de les faire connaître, pour que demain, ce soit plus le futur du travail, mais que ce soit le présent du travail pour tout le monde. Donc, on a été voir des entreprises, parfois des patrons, parfois des DRH, parfois des travailleurs de plein de métiers différents. Typiquement, on a été dans l'industrie à Saint-Gobain. On a été aussi voir une boîte tech au Portugal. On a été voir Ben & Jerry's, qui fait du retail, plutôt du côté du Vermont aux États-Unis, dans des usines. On a été voir un tas de sujets différents pour se rendre compte qu'en fait, peu importe où on travaille, dans quel pays, peu importe la taille de la boîte aussi, on se levait quand même plutôt pour la même chose le matin. C'est-à-dire, c'est trois leviers de motivation dont on a parlé. Mais qu'on avait chacun quand même des préférences et certains vont être motivés uniquement par la mission. Ils pourraient faire n'importe quoi pour une boîte tant qu'ils sont convaincus qu'ils contribuent à un projet commun global qui est utile pour la société et qui se sentent utiles eux-mêmes, c'est quelque chose. Et puis en même temps, d'autres vont dire, en fait, moi je m'en fous, moi tout ce qui m'intéresse c'est juste être avec les bonnes personnes, moi mes collègues ça me suffit, peu importe ce qu'on fait en fait d'ailleurs. Et puis d'autres au contraire, c'est la tâche. Et tout l'enjeu de documentaire, c'est de se dire, posons-nous la bonne question, plutôt de se dire quand je rejoins une boîte, quelle est la boîte dans le coin qui me paye plutôt ce dont j'ai besoin et dont j'ai les compétences à peu près, se poser les vraies questions en fait, mais de quoi est-ce que j'ai besoin comme environnement de travail? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ensuite de se diriger vers le bon endroit.
Alors, votre travail est organisé en triptyque. Vous avez un autre documentaire qui est dans les tuyaux, qu'on peut traduire en français par « Aller au boulot ». Ça va s'appeler « Time to work ». Il sortira dans quelques mois. Si on doit faire la conclusion de votre triptyque de travail en tant qu'observateur du monde de l'entreprise, qu'est-ce que vous diriez du travail dans 10 ans?
Dans 10 ans, j'espère, et ça devrait dire que la mission aura été réussie, c'est qu'on aura une une image beaucoup plus positive de ce qu'est le travail qu'aujourd'hui. Et c'est tout le sujet de ce nouveau documentaire. Effectivement, Time to Work, on se pose la question, est-ce qu'on travaille trop? On commence par y répondre en se disant que oui, on travaille trop, qu'il n'y a jamais autant de burn-out, qu'il y a un vrai sujet de santé au travail à cause des longues heures. Et en réalité, on se rend compte que on travaille trop et qu'on a diminué le temps de travail historiquement. Aujourd'hui, on parle de semaines de 4 jours, on parle de faire la chasse aussi au présentéisme et de passer simplement sur un mode projet. On parle d'organiser sa journée différemment. Mais en fait, on se pose pas la question d'abord qu'est-ce que c'est que le travail. Et c'est la question à laquelle on essaie de répondre. Et dans 10 ans, j'espère qu'on aura tous la réponse de pour moi, c'est quoi le travail? Est-ce que c'est l'activité simplement qui me rémunère? Est-ce que c'est quelque chose qui me coûte, qui me demande un effort? Est-ce que c'est quand je suis en production, quand je crée quelque chose, quand je suis à mon écran ou dans mon lieu de travail, peu importe? En fait, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est que le travail. Et quand on comprend que le travail, en fait, c'est déjà toute la vie. Quand on fait du sport, en anglais, on parle de workout. Quand on va boire un verre, on dit maintain relationships. Maintain, tout ça, c'est le champ lexical, en fait, du travail. Et il y a un anthropologue dans le prochain documentaire qui dit que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. James Sussman. Et avec cette définition, on prend aussi en compte tout le travail gratuit, qui est pas compté dans les calculs économiques de ce que le travail, et qui, en réalité, reflète beaucoup plus la réalité de nos journées.
Voilà. Alors, un mot, vous avez parlé des valeurs de l'artisanat tout à l'heure en nous listant les trois principaux leviers. Est-ce que les conclusions auxquelles vous êtes arrivés dans vos différents documentaires sont valables à la fois dans les PME, dans les petites entreprises, que dans les grands groupes que vous avez pu ausculter dans le monde entier?
Oui, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, je n'imaginais pas que c'était le cas, mais on peut être autonome, on peut être créatif, on peut être responsable, peu importe l'organisation. Il faut juste qu'on nous donne la confiance pour que ce soit le cas, que tout l'environnement soit créé pour que ça fonctionne. Mais ces conclusions, elles sont les mêmes, peu importe où qu'on soit. Et un truc qui est très puissant, qu'on peut piquer aux artisans aussi, c'est cette volonté de se dépasser, la volonté d'excellence, la volonté dans l'instant présent, la volonté de faire le beau geste. Et quand on fait une tâche aussi bête que répondre à un email ou dire bonjour à quelqu'un qu'on accueille dans sa boutique, en fait, on peut être dans l'instant présent plutôt que de penser à autre chose. On va pas faire plus de choses ou moins de choses, juste on va penser à ce qu'on fait et ça change tout. Les artisans, ils sont très bien là-dedans et ça, on peut leur piquer, peu importe le métier qu'on fait.
Why do we even work? Time to work est le premier documentaire.
Work in progress.
Work in progress. Si vous deviez faire un docu sur la réforme des retraites, sur quoi vous plancheriez comme angle?
J'aimerais bien aller poser la question à tous ceux qui sont farouchement opposés à la réforme des retraites, de savoir si ça les intéresserait pas de passer à la semaine de 4 jours tout au long de leur carrière et de se dire, finalement, est-ce que le plus important, c'est de partir le plus tôt possible à la retraite ou de trouver un rythme qui nous va bien tout au fil de la carrière et potentiellement de prendre du plaisir? Je dis pas qu'on va s'amuser, qu'on va rigoler, que c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains, on rentre du boulot en sifflotant. Mais déjà de passer un bon moment et de nourrir aussi ses envies, ses ambitions dans son travail. Et peut-être que le rythme différent pour ceux qui ont un travail avec une pénibilité forte, c'est d'avoir 4 jours par semaine plutôt que 5. Et je suis assez convaincu qu'il y a pas mal de gens qui sont farouchement opposés qui aujourd'hui diraient oui à rester jusqu'à 64, 65, peut-être 66 ans. Si jamais il y avait un rythme différent, peut-être 2 semaines de 4 jours demain.
Alors, une modulation autour du rythme. Samuel Durand, auteur de documentaire, vous êtes vous-même indépendant. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vous fait d'observer le monde dans l'entreprise avec ses gros rouages, ses grosses turbines, notamment les grands groupes que vous avez pu aller sonder de près?
Au début, j'avais une image très négative du salariat en général et évidemment des grandes entreprises. J'étais en école de commerce et ce qu'on me vendait, c'était ça, c'était le costume à la défense et le job pas drôle. Je me suis vite aperçu que c'était pas toute l'entièreté du travail, que c'était beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus large. Aujourd'hui, je pense que ça convient à plein de gens, mais qu'on se pose pas suffisamment de questions en fait. On vit dans une ère où on a plein de podcasts, plein d'émissions, plein de documentaires, plein d'articles qui permettent de nous nourrir sur comment est-ce qu'on peut travailler différemment. Et je crois qu'il faut plus les consulter, plus aller passer de temps à se poser les bonnes questions avant de rejoindre une boîte et se dire non mais moi je m'engouffre dans un truc et puis on verra plus tard. Souvent ces questions elles arrivent à 40, à 50, à 60 ans et il y a des regrets. Alors c'est jamais trop tard pour faire des bifurcations, mais plus jeune on va se poser ces questions-là, mieux ce sera.
Voilà, se poser les bonnes questions, vous pouvez le faire en consultant les documentaires disponibles en ligne de Samuel Durand, Work in Progress. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre expert RH pour démarrer cette séquence d'Happy Boulot. On va parler encore du rapport au travail, de l'environnement, des tâches, des missions, de l'envie de travailler. On va zoomer sur le marché des cadres qui ne connaît pas la crise sur le papier puisque on est presque en train de tutoyer le plein emploi et pourtant beaucoup de cadres démissionne. Restez avec nous, c'est le sujet sur la table dans quelques secondes.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Le marché des cadres ne connaît pas la crise. Notre pays vit une situation quasiment exceptionnelle. Je vous cite le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui dit que nous vivons une opportunité historique d'atteindre un niveau de chômage inférieur à 5%. Pour s'en convaincre, c'est vrai qu'il suffit de jeter un œil sur le marché de l'emploi, des cadres qui tutoient quasiment le plein emploi et pourtant ces cadres, ils démissionnent. C'est l'objet de notre débat avec mes deux invités. D'abord, Coralie Rachet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Robert Walters et Xavier Dulin. Bonjour, cher Xavier.
Bonjour, Lorraine. Bonjour.
Avocat associé au cabinet Barthélémy. Avec vous, on va essayer de décrypter ce qui peut sembler un paradoxe. Alors, Coralie, vous et votre équipe, vous publiez une étude qui zoome sur ces cadres. Donnez-nous les grandes lignes.
Alors, une étude qui zoome sur la grande démission, sur un panel de 1900 cadres, ça dit quoi? Ça dit que le marché, comme vous le rappeliez, est en super tension, difficulté à recruter, un niveau record, plein emploi, un niveau historique pour les cabinets de recrutement. On parle d'un taux d'intermédiation record à 44%, donc beaucoup d'opportunités pour les cadres et une capacité à revenir très rapidement sur un emploi. 8 cadres sur 10 mettent moins de 6 mois pour retrouver un poste.
C'est pas mal. C'est sécurisant quand on a envie de démissionner. Xavier, cette réalité, en tant que conseiller, en tant qu'avocat, est-ce que vous la touchez du doigt ?
Oui, c'est absolument évident. C'est-à-dire que cette étude permet vraiment de comprendre plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on énonçait rapidement entre nous, on a pu en échanger un peu. Vraiment, il y a une difficulté qui est liée à cette possibilité pour les cadres. On peut l'appréhender de manière très positive ou de manière au contraire assez négative. C'est vrai que les cadres ont aujourd'hui une liberté retrouvée, en quelque sorte. Hein. Ils ont un peu le choix et c'est aux entreprises de s'adapter, aussi bien en termes de management qu'en d'un point de vue juridique, sur ces questions-là. Compte tenu de ces difficultés-là, parce qu'effectivement, il y a une certaine liberté retrouvée, il faut soigner davantage. Et je dirais que ces difficultés liées à ces possibles démissions, dire une certaine souplesse, je peux démissionner beaucoup plus facilement quand j'ai un certain profil, dans certains milieux, pour certains métiers, se conjugue aussi avec des difficultés de recrutement et ce qu'on a appelé la démission silencieuse. C'est-à-dire que c'est quand vous, la conjugaison de ces trois difficultés-là, c'est-à-dire problématique de recrutement, problématique de démission et en plus pour ceux qui sont sur place et en poste, la volonté pour certains de se dire bah, si je suis pas satisfait, je vais en faire le moins possible. Voilà, il y a de très beaux sujets pour aussi bien pour Coralie que pour moi
et surtout pour les cadres qui sont en train de gagner la guerre des talents, disons-le clairement. Et quand on parle de grande démission, donc ce fameux terme qui vient des États-Unis, attention de pas traduire mal le Great Resignation. On n'a pas de la résignation, on a des démissions qui viennent traduire encore une fois beaucoup d'opportunités sur le marché et un taux d'ailleurs qui est haut mais qui n'est pas inédit. Hein. On parle de 2,7% de départ versus 2,9% en 2018.
Sur la chaîne ABFM Business, on a essayé de ne pas utiliser trop cette expression de grande démission, mais plutôt de grande rotation. Grande rotation parce que c'est la guerre, c'est ce que vous avez dit. Coralie, je reprends votre expression. Dans cette guerre, je vous donne quelques chiffres. 87% des cadres ont songé à démissionner. Et parmi les plus jeunes, 30-39 ans, 91%. On a 9 jeunes cadres sur 10 qui ont songé à démissionner d'après le cabinet Robert Walters, d'après vos études, Coralie. Comment les entreprises gagnent la guerre avec cet état d'esprit en phase 2 ?
Elles ont conscience. En tout cas, c'est un enjeu très compliqué pour les dirigeants et les DRH. D'autant que ce chiffre qui parlait 2022 est en train d'être confirmé sur 2023 avec des intentions de changement très fortes. Envie de renouveau, envie de bouger et des opportunités sur le marché. Donc, comment retenir? En tout cas, ça s'anticipe. Mm-hmm. Ça se prépare. On échangeait hors plateau sur le fait que les entreprises vont parfois un petit peu trop dans le conflit dans le cadre de séparation et qu'il faut faire absolument attention aux effets de rattrapage. Mm-hmm. Moi, ce que je constate en cabinet, c'est que lorsque des candidats sont en processus de recrutement, on a eu un taux extrêmement fort de candidats qui se faisaient rattraper par leur employeur pour des éléments de rémunération. On a parlé ensemble de step increase, mais pas que, ou d'adaptation d'un certain nombre d'éléments.
Rattraper, ça veut dire quoi, Coralie ?
Ça veut dire qu'ils sont en train de devoir signer pour une autre entreprise et qu'au moment de poser leur démission, ils viennent voir leur employeur et là, on leur dit « Écoute, je suis désolée, j'avais pas vu, si tu veux, je te fais une augmentation de temps, tu as une proposition. » 53% des candidats disent que si on leur fait une augmentation, une promotion au moment où ils souhaitent partir, ils sont capables de changer d'avis. Mais on a une autre stat qui dit quelque chose d'intéressant. 75% d'entre eux se remettront à l'écoute du marché dans l'année qui va suivre. Mmh. C'est pour ça que j'insiste sur un soin particulier, sur chaque étape du processus, que ce soit le recrutement, le pré-boarding, l'onboarding et puis même la sortie qui faisait aussi un débat passionné entre nous, Xavier.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, cette question-là vraiment me touche beaucoup parce qu'effectivement, très souvent, les gens pensent que la démission est un peu synonyme de conflit. Et c'est vrai que c'est conçu comme ça, presque. C'est une approche un peu ancienne, un peu désuète, presque ringarde. On se dit, dès lors qu'il y a démission, il y a nécessairement conflit. Vous nous abandonnez, c'est une trahison, ça veut dire qu'on n'est pas assez beau pour vous. Et en fait, il ne faut pas le traiter comme ça. Si on le traite en se disant, ben non, je vais nécessairement me disputer avec celui qui s'en va ou celle ou celui qui s'en va, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, vous allez retrouver ces personnes-là, effectivement, dans le même domaine d'activité. Et peut-être demain, vouloir travailler avec eux, clients, fournisseurs ou de nouveaux collaborateurs. Donc, on a tout intérêt à soigner une séparation.
Exactement.
Vraiment
on
beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Du recrutement boomerang, ces fameux collaborateurs qui partent, qui viennent acquérir de nouvelles compétences dans des entreprises et qui reviennent. 72% d'entre eux disent que si la séparation s'est bien passée...
Ils reviennent augmenter.
Ils reviennent augmenter, effectivement, mais ils reviennent tout court. En termes de message, d'image marque employeur, qui est notre sujet, de l'engagement des collaborateurs, c'est d'une puissance...
Juridiquement, on a plein de moyens de traiter ça. Plutôt qu'une démission, on opte pour une rupture conventionnelle. C'est pas toujours possible parce qu'on se dit ça va coûter un peu d'argent. Ça peut coûter très peu d'argent. Et c'est toujours mieux de se séparer d'un commun accord. C'est mieux aussi de soigner quelqu'un qui est un peu sur le départ mais qui a pas encore réalisé parfaitement ce souhait, ce vœu. Qui se dit, je suis pas très satisfait. Mais de là à partir, c'est le pas n'est pas franchi, donc peut y avoir un décalage. C'est ce que vous révélez aussi très bien dans votre étude, c'est que il y a des envies de partir, ce qui ne se concrétise pas nécessairement. Donc il faut aussi faire des efforts pour garder ceux que l'on a chez nous. Et ces efforts-là, on peut les faire aussi juridiquement dans le cadre d'entretien, d'évaluation ou sur l'évolution de la formation. C'est simple finalement. Enfin, c'est pas si compliqué que ça d'aborder la question de la rémunération, de la formation, des étapes que l'on peut franchir. Autrement dit, on a, aussi bien en termes de management qu'en droit, des outils qui permettent de retenir ou de se séparer plus gentiment qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce qui m'étonne souvent, c'est ce décalage qu'il y a entre cette réalité et cette perception de la réalité par les cadres dirigeants et par les dirigeants d'une manière générale. C'est-à-dire que s'ils sont plutôt des mandataires, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas l'accepter, alors qu'en fait, les chiffres sont là. Les chiffres sont là et prouvent bien qu'il y a quelque chose, il y a des phénomènes nouveaux, il faut bien les appréhender. Et c'est bien de soigner un peu ces relations.
S'adapter pour mieux retenir, tant d'un point de vue managérial que d'un point de vue financier, que d'un point de vue juridique. On comprend, la rémunération n'est pas l'unique levier de rétention, mais néanmoins, il faut qu'on zoome dans la discussion là, sur les principaux motifs de démission. Qu'est-ce que vous avez retenu, le top 3 ?
Le top 3, c'est les fondamentaux. D'abord, c'est évolution de carrière, donc classique, on n'a pas les évolutions en interne, on se dit qu'on peut grandir autre part. Le deuxième reste la rémunération. Et le troisième qu'on vient d'évoquer, c'est le sujet du lien managérial, tout le lien humain, des valeurs de l'entreprise, se sentir en conflit ou en tout cas pas aligné sur ces éléments-là. Donc, et ça représente plus de 50% des raisons de départ, de démission. Après, on a des choses qui sont exprimées. On parlait du bien-être, on parle de la quête de sens, qui sont aussi des éléments qui sont beaucoup plus assumés et exprimés. Et puis, je finis par le besoin de renouveau. Encore une fois, toutes ces périodes qu'on a vécues, il y a une véritable expression de renouveau. D'ailleurs, dans notre enquête, pour plus de 50% d'entre eux, ils veulent changer de secteur. Et plus de 20% d'entre eux veulent complètement changer de métier.
Donc, parmi ceux qui veulent démissionner.
Exactement, mais qui restent... globalement assez réviser. Nombreux en recherche d'emploi.
Le bien-être, justement. Xavier, ça a déjà fait l'objet de quelques-uns de nos échanges à midi dans la libre antenne de BFM Business avec vous. Le besoin de bien-être au travail, il se traduit juridiquement. Il y a cette tension pour les employeurs, pour les managers, pour les dirigeants d'améliorer le bien-être avec en sous-jacent d'améliorer la performance. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils du dirigeant, de la dirigeante pour réaliser cette double objectif?
Il y a plein d'outils en droit du travail qui permettent d'aborder ces questions-là sur le management, les causes de conflit, la quête de sens, la durée du travail, la rémunération. Il y a plein de sujets. Le problème est que très souvent, c'est appréhendé de manière collective. C'est-à-dire qu'on va avoir des accords sur la mobilité, des accords collectifs sur le temps de travail ou des actes unilatéraux de la part de l'employeur pour la collectivité des travailleurs. Ce qui est très important juridiquement pour éviter justement d'avoir ces difficultés-là qui vont aller au-delà des simples envies qui vont se concrétiser, qui vont se réaliser, ces risques-là, eh bien, il faut individualiser ces mesures. C'est-à-dire expliquer. On n'est pas obligé d'avoir un accord par salarié, un accord spécifique par salarié, mais il faut que ces outils qui existent sur la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail, les sujets qui reviennent le plus souvent, ou les questions de management, les questions de formation, pour que cette collectivité ait du sens, il faut que chacun ait sa place. Ça peut être des entretiens très courts, ça peut être des messages d'information simplement, pas nécessairement des entretiens individualisés, mais il faut que les solutions soient connues individuellement. Ça, c'est un des conseils qu'on donne le plus souvent. Il y a qu'en fait, on dit, ben, j'ai tout ça. Oui, mais est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous êtes sûr que chacun a été bien sensibilisé à ça? Et on évite effectivement, à ce moment-là, aussi bien, encore une fois, je me répète, mais c'est nécessaire, dire, sous un angle qui serait celui du management et ce soit sous un angle juridique, on peut appréhender ces questions-là en faisant des efforts qui sont pas très coûteux.
Et très individualisé, je vous rejoins sur ce point. Et entre autres aussi sur les sujets de la flexibilité, on a beaucoup évoqué le sujet du télétravail, mais pas que, l'aménagement du temps de travail, des formations, et de faire du sur-mesure, parce qu'encore une fois, on est là pour adapter et gérer au mieux cette tension sur le marché de l'emploi, qui reste une très bonne nouvelle.
Il y aurait encore mille choses à dire, notamment sur le sujet du désengagement. On observe que pour beaucoup de gens, le travail peut être passé au deuxième plan de la vie, mais on peut quand même rester tout aussi productif, tout aussi impliqué. En mettant le travail au deuxième plan, ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Et je vous remercie tous les deux, Xavier Dulin, avocat associé au cabinet Barthélémy, d'avoir été notre regard juridique, et Coralie Rachet et toute votre équipe chez Robert Walters, de nous avoir aidé à zoomer sur ce marché des cadres qui ne connaît pas la crise. Je vous renvoie vers cette étude du cabinet Robert Walters, la dernière sur ces cadres, qui s'appelle comment ?
La grande démission.
La grande démission. Vous avez entendu ? C'est pas le terme qu'on aura retenu pour qualifier ce qui se passe chez nous. Merci à tous les deux. On va parler de l'employabilité des seniors pour finir cette émission. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
On est en pleine tourmente de la réforme des retraites. Alors, on va finir cette émission en parlant de comment favoriser l'emploi des seniors, l'employabilité des seniors, en rappelant d'abord qu'à Pôle emploi, on est senior à partir de 45 ans. Notre invité, c'est Thomas Ducret. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes responsable commercial chez Le Hibou, une plateforme qui met en commun des freelances, 70 000, et les entreprises. Et vous avez cette spécificité dans votre boîte, c'est que 25% de vos freelances ont plus que 45 ans.
Exactement.
25% de vos freelances sont des seniors. Expliquez-nous la réalité de ce chiffre.
Alors, elle est toute simple, c'est effectivement... On le constate sur notre plateforme, mais sur le marché du freelancing en général, c'est des profils qui sont plutôt experts. Nous, c'est 15 ans d'expérience en moyenne sur la plateforme. C'est la réalité aussi sur le freelancing. Donc, la majorité des freelances sont seniors et on a, je dirais même au-delà, 10% des freelances qui ont plus de 55 ans aujourd'hui.
Alors, en termes d'UX, en termes d'expérience utilisateur, chez vous, vous avez un petit filtre. On peut cocher « J'accepte les freelances seniors ». J'accepte, ça donne quand même un peu l'impression côté client qu'on fait un sacrifice.
Alors quoi ? Très souvent, on évite d'employer le mot senior, on parle de profil expérimenté, parce que c'est ce que les clients recherchent et on est avant tout là pour répondre à un besoin client, donc en apportant une expertise. Et finalement, l'âge arrive en bout de course et nos clients ne le connaissent pas quand on présente des dossiers.
Alors dites-nous, quels sont les domaines où vous avez le plus de freelance senior ? Est-ce que c'est le management de transition, le conseil expert ? Qu'est-ce que ça va être sur votre plateforme ?
Alors effectivement, on va retrouver le management de transition, on va retrouver tout ce qui est direction de projet, de programme, ou voir des sujets techniques assez pointus dans l'architecture, mais là aussi pour manager un pôle d'architecte. Donc tous les sujets finalement où l'expérience et la seniorité sont recherchés et font du bien, parce qu'on va rechercher une capacité d'analyse, de prise de recul et une vraie expertise qui est basée sur plusieurs années d'expérience, de longues années d'expérience.
Alors justement, ici on a arrêté de parler de seniors, ici sur ces plateaux de médias liés à l'entreprise, à BFM Business, mais aussi partout ailleurs. Et si, quand on parle de seniors sur le marché de l'emploi, on parlait de candidats expérimentés ou de profils expérimentés, est-ce que ça réglerait certains problèmes liés au biais ou aux situations de discrimination selon vous?
Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Le mot senior peut faire peur parce qu'on a, les a priori ont encore la vie dure et on essaie de leur tordre le cou. Mais le fait de parler d'experts, et de profils expérimentés ouvre le champ des possibles et surtout ça, la palette d'âge est quand même assez large, 45, 65 ans. On a quand même une vingtaine d'années sur l'échelle.
Pourquoi vous arrêtez à 65? Quel est l'âge du plus vieux ou de la plus vieille freelance que vous avez sur la plateforme?
Aujourd'hui, je vous dis ça parce que c'est 65 ans.
Ce n'est pas ultra vieux.
Non, ce qui n'est pas ultra vieux, effectivement. En mission actuellement, c'est ça. On constate qu'à partir de 65 ans, on en a beaucoup moins parce qu'effectivement, il y a une appétence pour partir à la retraite. On sera plutôt sur des sujets très, très pointus, type management de transition, exclusivement.
Mais oui, 65 ans, il y a tellement de professions libérales et d'indépendants qui sont encore évidemment au travail à 65 ans qu'il sait bien de rappeler la diversité des situations. Un mot derrière, pour conclure, votre solution, elle est basée sur de l'intelligence artificielle, du big data. Est-ce que justement ces technologies peuvent avoir un rôle un peu plus général dans la société pour essayer de débiaiser, de limiter les discriminations liées à l'âge? Mais comment on peut généraliser l'usage de ces techno?
Alors ça peut, mais on constate que c'est une population qui se forme beaucoup, au contraire, pour rester à la page, et peut-être un peu plus que la population, la tranche d'âge précédente, parce qu'ils veulent rester à la page, rester connectés. Et ce qui va faire la différence, pour conclure, c'est surtout l'humain derrière, parce que les outils ont leurs limites, et donc c'est surtout l'échange avec les clients qui va débloquer la situation.
Est-ce qu'il y a une frontière aussi, quand on sollicite un profil senior en freelance, une frontière liée à ce que ça va coûter? Parce qu'un freelance expérimenté, ça coûte plus cher.
Alors là aussi, il y a des a priori. En fait, au final, on constate l'inverse. On constate que finalement, le tarif, le TGM des freelances a tendance à baisser de 7% à partir de 55 ans.
Ouais.
Donc c'est plutôt un avantage pour les entreprises, puisqu'ils bénéficient d'une expertise et finalement à bas coût, entre guillemets, en tout cas moins élevé que les tranches d'âge inférieures. Donc c'est plutôt l'inverse qu'on constate.
Et alors qui fait baisser le prix? C'est l'offre? C'est les freelances eux-mêmes?
C'est plutôt l'offre qui fait baisser le prix. Je pense qu'à partir d'un certain âge, effectivement, la carrière est quand même plutôt derrière soi que devant soi. Ils sont plus à la recherche de gagner plus à tout prix. C'est plutôt trouver la bonne mission qui va répondre à leurs envies, à leurs besoins d'expertise et à leurs besoins d'épanouissement.
Voilà, merci beaucoup Thomas Ducré, responsable commercial chez Le Hibou. On a parlé freelancing et senior, vous voyez comment favoriser l'emploi et l'employabilité de tous les travailleurs dans notre pays et combattre les discriminations, entre autres liées à l'âge. C'est la fin de cet épisode d'Happy Boulot, le mag. Merci à tous nos invités et à l'équipe pour la préparation. Tous nos épisodes d'Happy Boulot sont à retrouver sur le site et l'application BFM Business, mais aussi sur la plupart des plateformes en podcast. Il y a un petit QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent. Bien sûr, on sera là la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.